En lisant le parcours d'un personnage, je mesure souvent que j'ai vécu quelque chose de très similaire. Et je suis heureux que ce qu'a vécu le personnage soit conservé, parce que c'est comme un fragment de moi-même qui est conservé.
Et qui est retrouvé dans les textes.
C'est ça, et si un écrivain ne le mentionnait pas, ces instants seraient perdus à jamais, ils ne seraient pas enregistrés.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Forum. Nous recevons Monsieur Philippe Richard, qui est professeur de lettres modernes en Cagnes, donc en classe préparatoire littéraire. J'ai d'ailleurs eu la chance de suivre ses cours. Monsieur Richard a étudié à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, est agrégé et docteur en lettres modernes. Donc il faut bien spécifier que les lettres modernes se différencient des lettres classiques. En effet, les lettres classiques travaillent sur les textes antiques en règle générale, tandis que les lettres modernes s'intéressent plutôt à des textes qui ont été écrits et rédigés à partir du XVIe siècle. Alors aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de littérature, mais plus spécifiquement de la lecture, qui est la première étape pour vraiment s'intéresser à la littérature. Nous vivons dans une époque où il est extrêmement difficile de trouver du temps pour soi, et donc, a fortiori, pour les textes. On est tous pris dans des activités, dans un rythme de vie effréné, et vraiment trouver du temps pour s'approprier un texte, pour vraiment le méditer, pour le digérer d'une certaine manière, pour faire du texte le sien, est un acte, une action qui est presque inconcevable. On a tous un jour commencé un livre sans vraiment réussir à le finir, et il est rare de vraiment pouvoir se plonger dans une lecture authentique. Alors, Monsieur Richard, si vous deviez aujourd'hui, c'est une grande tâche qui vous incombe, et si vous deviez essayer de nous définir quelques-uns des attraits que pourrait présenter la lecture, que pourriez-vous nous dire ?
Le premier attrait, sans doute, d'une œuvre littéraire, c'est qu'elle me permet d'explorer un monde perdu. On imagine très souvent que la littérature me donne une vision de la vie que j'ai, m'aide à mieux discerner la vie que j'ai. En réalité, elle m'aide surtout à explorer le monde d'où je viens, qui est un monde qui disparaît en permanence. On sait bien, alors c'est une question existentielle inévitable, on sait bien que les moments que nous vivons passent et que nous ne les revivrons jamais. Et nous savons bien que tous les instants vécus de nos existences sont à jamais perdus. On pourrait penser que c'est pessimiste de dire cela, mais non, c'est factuel, c'est ainsi. Et la littérature est précisément ce qui va faire mémoire, va conserver le souvenir de ces moments perdus. Et c'est la raison pour laquelle la littérature nous est précieuse, parce que elle conserve l'empreinte des belles choses que nous avons vécues. Alors évidemment, les choses que nous avons vécues sont diffractées à travers ce que vit un personnage qui n'a pas forcément vécu exactement la même chose que moi, mais en lisant le parcours d'un personnage, je mesure souvent que j'ai vécu quelque chose de très similaire, et je suis heureux que ce qu'a vécu le personnage soit conservé, parce que c'est comme un fragment de moi-même qui est conservé.
Et qui est retrouvé dans les textes.
C'est ça, et si un écrivain ne le mentionnait pas, ces instants seraient perdus à jamais, ils ne seraient pas enregistrés.
Ce serait d'abord se retrouver dans le livre.
Oui, c'est ça. Le livre m'apprend d'ailleurs que je peux vivre avec la perte de tous les instants qui me constituent parce que ces instants sont conservés quelque part, sont conservés dans cette bibliothèque universelle qu'est la littérature. Alors parler de temps perdu, évidemment, c'est immanquablement penser à Marcel Proust qui a beaucoup médité cette question-là, mais qui justement conserve pour nous tout un monde perdu. Alors, nous pourrions dire que la belle époque dans laquelle vit Marcel Proust n'est plus du tout notre monde, naturellement. Mais ce serait une erreur grossière, ce n'est pas parce que Marcel Proust vit à la belle époque qu'il n'est pas capable de conserver des instants
très similaires aux nôtres.
Absolument, et qui disent quelque chose de juste sur notre monde, précisément parce qu'ils ne sont pas situés sur le même axe que notre monde. Très souvent, si nous voulons dire quelque chose sur notre monde, à partir de notre monde, nous sommes aveugles. Nous sommes trop proches de l'objectif, il nous faut un recul. Et l'œuvre littéraire, quand elle prend un peu d'âge, comme le bon vin, eh bien, elle permet justement une lucidité beaucoup plus grande. Peut-être, alors, si l'on voulait lire quelques lignes de la recherche. Le côté de mes églises avec ses lilas, ses aubépines, ses bleuets, ses coquelicots, ses pommiers. Le côté de Guermantes avec sa rivière, ses nymphéas et ses boutons d'or ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre, où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu'était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule. Proust rapporte un souvenir, le souvenir de ses promenades lorsqu'il était enfant, du côté de mes églises d'une part, du côté de Guermantes d'autre part. Toute son œuvre s'organise en fonction de ces deux côtés, nous le savons. C'est un souvenir d'enfance et ce souvenir, nous dit-il, marque aujourd'hui toute sa manière de voir le monde et où qu'il aille, il aime retrouver ces lieux qui sont pour lui très chers. Et chaque lieu qu'il voit, c'est par ces lieux anciens qu'il les voit. Chaque lieu actuel, c'est par ces lieux anciens qu'il les voit. Mais nous, en vérité, c'est la même chose. Nous savons très bien que certains souvenirs de vacances, lorsque nous étions jeunes, nous ont tellement marqués que souvent nous y aspirons, que nous en ayons conscience ou non, nous aspirons à les retrouver. Et que... au détour d'une sortie, aujourd'hui, ici, maintenant, nous sommes sensibles à tel ou tel décor parce qu'en réalité, il nous rappelle un décor qui nous est profondément cher, qui nous a marqué. Bon.
C'est extrêmement naturel comme mécanisme.
C'est absolument.
Comme quand on voyage, on a tendance à comparer avec ce qu'on connaît en France, en fait, notre culture. Ouais. C'est...
Absolument, et cela donne une profondeur affective au paysage que nous voyons. Donc, vous voyez, l'œuvre de Proust, écrite ici en 1913, eh bien, en réalité, nous dit comment nous fonctionnons, nous dit que nous ne fonctionnons jamais véritablement dans le présent, mais toujours par rapport à un passé. Mais dire cela n'est pas se lamenter des choses, c'est ainsi. Alors voilà, c'est la première, peut-être le premier caractère.
Donc une attention... Une attention plus aiguë, en fait, à ce que nous avons vécu, une connaissance de nous-mêmes. Et...
C'est ça. L'exploration du monde, des instants perdus qui sont conservés et qui nous rendent à nous-mêmes, qui nous disent nous-mêmes et nous rendent à nous-mêmes.
Donc ça serait se retrouver dans l'œuvre.
On se retrouve dans l'œuvre, oui, et plus précisément peut-être, on apprend à se retrouver. Parce que se retrouver soi-même, savoir qui nous sommes, n'est pas du tout quelque chose de naturel ni d'aisé. Et donc nous avons besoin d'apprendre cela, apprendre à nous conquérir nous-mêmes et à savoir qui nous sommes. Sans doute un deuxième caractère de l'œuvre littéraire, c'est de former notre conscience morale. Je pense ici à la morale, non pas prescriptive, normative, abstraite, mais quand je dis former notre conscience morale, j'entends plutôt... un exercice de discernement. L'œuvre, en présentant des personnages qui ont des caractères complexes, en présentant des phrases dans lesquelles parfois il faut entrer, les méandres d'un style, nous parlions de Proust à l'instant, méandres d'un style qui sont les méandres de la vie elle-même, qui est compliquée, on le sait bien, nous avons des vies compliquées, des relations avec les gens qui parfois sont compliquées, et bien en découvrant ces personnages... qui se battent avec la vie, qui essaient de situer leur vie comme ils peuvent, comme chacun de nous d'ailleurs, on fait tous ce qu'on peut, en situant leur vie avec justesse, eh bien, il y a une philosophie incarnée, je crois, dans des corps, dans des hésitations, qui forment notre conscience morale. Tel personnage de roman ou de théâtre va se comporter de telle ou telle manière, et nous apprendre à discerner par son comportement comment nous aimerions nous comporter en telle situation similaire, ou savoir comment nous sommes comportés en telle situation similaire et nous faire prendre conscience que peut-être nous aurions pu nous comporter autrement. Mmh. Et Dieu sait que nous avons besoin de former notre conscience morale dans un monde qui en a peu, et donc la littérature a ici un rôle didactique, elle nous aide beaucoup plus que des discours prescriptifs, normatifs, qui nous diraient il faut faire cela. Bon, je ne sais pas s'il faut, enfin, en tout cas
on essaye, on
oui voit, c'est ça, et ce qu'il faut c'est apprendre à être le plus juste possible avec soi-même et avec les autres, bien sûr. Bon. Alors la littérature nous aide à cela. Je pense ici à l'œuvre de Lagarce, hein, qui est une œuvre qui explore les difficultés que chacun rencontre en famille, la difficulté de dire en famille. On peut penser qu'avec des personnes proches, les choses sont faciles à dire. En fait, c'est exactement tout le contraire, évidemment. Et l'œuvre de Lagarce explore cela et essaie de voir comment est-ce qu'il est possible de dire au plus juste les choses sans blesser les gens, mais tout en conservant l'exigence de la vérité. Et là, il y a une forte exigence morale, me semble-t-il, et l'œuvre nous apprend cela. Tout à la fin d'une pièce connue qui s'appelle « Juste la fin du monde »,
qui était adapté
au cinéma, absolument, le personnage d'Antoine, que peut-être le spectateur juge mal depuis le début de la pièce, juge comme quelqu'un d'un peu pesant, qui n'a pas les codes,
qui est brut,
voilà, c'est ça, qui ne sait pas dire. Et enfin, en fin de pièce, c'est pourtant ce personnage qui, le plus courageusement, essaie de dire en famille ce que personne n'ose dire, à savoir ce malaise provoqué par le fait que l'un des enfants, Louis en l'occurrence, était préféré aux autres. C'est lui qui parvient à mettre des mots sur un fait, oui, qui est en même temps une blessure, ouais. qu'on ne disait pas en famille, qui était latent. Je lis. On ne se le disait pas si facilement. Rien jamais ici ne se dit facilement. Non, on ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances, encore une autre expression qui te fera sourire, à certaines prévenances à ton égard, nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre le plus souvent et mieux encore soin de toi, garde à toi, et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions plus que jamais tu ne sauras t'en rendre compte. La phrase est superbe, elle est tout en méandre, elle explicite bien la difficulté à dire, on sent bien que la pensée accouche difficilement de son objet, avec des corrections permanentes. On voit ici que le style nous apprend qu'il est difficile de dire et pourtant qu'il est nécessaire de dire, puisque précisément la chute est très belle, en ce sens qu'elle exprime ce fait. Il y a une souffrance, Louis était préféré, et pourtant, on peut prendre acte, il est possible, pardonnez-moi, de prendre acte de cette souffrance pour arriver à cette conclusion, nous t'aimions plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte. Malgré la souffrance, on continue d'aimer le frère qui est dans la famille. Voilà. Donc, il n'y a pas ici un discours moral, abstrait, au sens il faut s'aimer en famille comme il faut être citoyen en faisant ceci ou cela ou que sais-je. Il n'y a aucun discours normatif, mais on découvre un beau visage de personnage qui essaie de faire ce qu'il peut avec sa nature, sa personnalité.
En fait.
C'est ça, et d'ailleurs qui dit au passage des souffrances qui peuvent être les nôtres, enfin ces faits sont quotidiens dans les familles qui sont les nôtres. Bon.
Et pour autant, l'apprentissage qu'on peut faire sur cet effort de dire la vérité peut être remis en question, parce que dire ça devant son frère qui se bat contre la maladie, ça peut être aussi blessé. Donc c'est là où les sensibilités s'expriment dans la lecture.
Absolument, absolument. Et le dramaturge Kélagars ne nous dit pas il faut se comporter comme Antoine, il présente une possibilité. Ouais. Et je parlais de discernement tout à l'heure. Voilà, nous devons discerner. Voilà. On nous propose une figure intéressante qui parvient à dire nous, il nous faut dire aussi, mais comment ? Alors, avec les modalités ensuite qui nous sont propres, il ne s'agit pas de faire exactement la même chose, bien entendu. Sinon, ce serait un discours normatif, mais ça ne l'est pas. Et cet apprentissage du discernement, il n'y a que la lecture, me semble-t-il, qui nous la donne. Pourquoi ? Parce que la lecture est un exercice de patience. C'est long de lire, il faut se mettre un peu en retrait.
Il faut se libérer son quotidien.
Absolument, absolument. Et justement, c'est cette mise en retrait qui est nécessaire pour l'art du discernement. Voilà. Ce n'est pas l'immédiateté d'une série Netflix qui nous l'apprend. Elle peut avoir d'autres intérêts, la série notamment divertissante, et c'est très bien. Mais une série est dans l'immédiateté, tout va très vite pour stimuler l'intérêt. En littérature, tout ne va pas vite. Et on a besoin que tout n'aille pas vite dans cet apprentissage du discernement qui fait le creux et la beauté de nos vies. Et nous avons besoin que on ne nous mette pas non plus trop d'images devant les yeux. Et la littérature, précisément, en ne mettant pas d'images,
favorise c'est se rendre actif.
Oui, ouais. Absolument. Nous laisse être co-créateurs du texte, nous laisse mettre nos propres images sur le texte. C'est-à-dire nous met dans une position d'activité que devant un écran, nous n'avons pas. Devant un écran, nous sommes incroyablement passifs, nous recevons l'image. En littérature, nous devons bien la créer, puisqu'il n'y a pas d'image autre que une image suggérée dans les mots, et par les mots. Et c'est toute la beauté, en fait, de la littérature, de parvenir à nous dire que nous sommes capables d'être créateurs d'images, d'être créateurs de discernement, et de favoriser cela en nous. Évidemment, un autre attrait encore de la littérature, c'est que elle célèbre aussi le monde et les choses à notre place. Lorsque nous ne savons pas faire cela, elle met des mots sur ce que nous ne savons pas nommer, et que pourtant nous voudrions savoir nommer.
Elle peut rendre des choses magnifiques qui de fait sont terribles.
Oui. Elle offre sa voix. Elle nous offre sa voix, alors que nous n'avons pas forcément de voix. Comment dire la souffrance devant quelqu'un qui va mourir? Comment dire son amour devant l'être aimé lorsque nous ne savons pas si nous sommes aimés? Comment risquer une parole alors que nous avons peur de nous-mêmes, parfois, plus ou moins consciemment? Eh bien, la littérature, en célébrant le langage, célèbre en même temps ce courage de la parole. Je pense ici à la poésie d'Éluard, qui magnifiquement sait dire et sait parler de l'être aimé. Je lis quelques vers. Parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leurs regards. Évidemment, il ne s'agit pas de déclarer sa flamme à quelqu'un de la même manière qu'Éluard, ou même si on peut réciter Éluard éventuellement, mais en revanche, en lisant cela, en étant sur la paille des astres, avec cette belle antithèse, de la paille qui est au sol et des astres qui sont au ciel et qui pourtant ont même couleur, dans cette élévation très, très verticale du poème, nous lisons ce vers magnifique: le monde entier dépend de tes yeux purs. Et nous savons très bien que lorsque nous aimons quelqu'un, nous avons l'impression que
la personne est parfaite.
Oui, et nous aspirons à voir son regard toujours. le monde entier dépend de ses yeux purs. C'est-à-dire que si la personne ne nous regarde plus, détourne le regard, nous avons l'impression de ne plus exister. Nous voudrions que l'autre nous regarde toujours, parce que nous avons besoin de son regard, et nous lui attribuons une pureté qu'il peut avoir, effectivement. Très belle célébration du regard. Pour des choses qui sont en fait très, très quotidiennes, et des choses que nous vivons, effectivement, le besoin de l'autre. Oui, le besoin de l'autre, alors, et lui armer des mots pour nous. Souvent, nous ne sommes pas capables de mettre des mots, c'est ainsi. Et la poésie, genre très peu lu aujourd'hui, mais, malheureusement, mais la poésie met des mots et célèbre pour nous les choses, le monde, les êtres. Voilà, c'est un autre attrait, évidemment, de l'œuvre littéraire. Œuvre littéraire qui, finalement, d'après ce que nous sommes en train de dire, crée ce que l'on pourrait appeler un en commun, un socle commun, à une époque où la subjectivité règne en maître, où toute objectivité semble impossible. C'est ce qui est l'ouverture de la barbarie. Si aucune objectivité n'est possible, alors
plus rien ne peut se faire en société.
On ne peut pas discuter. On ne peut discuter sur rien puisque on parle de rien. Il n'y a aucun terrain commun. Alors, en littérature tout de même, le dénominateur commun, c'est le texte. C'est la nomination des choses.
C'est une nomination, comme on disait, qui n'est pas normative. Ouais. Qui favorise l'activité personnelle, et c'est peut-être un des plus grands paradoxes de la littérature, finalement, de réussir à proposer quelque chose au oui. commun, mais d'une manière toujours différente.
C'est ça, c'est un en commun que chacun va pouvoir regarder de manière différente, et ça c'est très bien, il ne s'agit pas de réduire les gens à voir tout de la même manière, évidemment. Donc, La subjectivité, ce qu'on appelle la focalisation en littérature, c'est-à-dire la manière de voir les choses, la subjectivité est très bonne, mais pour voir un objet qui, lui, en soi, a tout de même une objectivité. Sinon, les subjectivités ne peuvent plus partager, c'est-à-dire apporter leur richesse propre, elles ne peuvent plus partager sur rien, elles sont enclavées dans une espèce de bulle, hein, solipsiste. Voilà. Un metteur en scène comme Stefan Braunschweig explique souvent cela en disant que on peut faire bien des choses au théâtre, choisir des mises en scène plus ou moins colorées, plus ou moins engagées sur des sujets. Mais en revanche, il ne faut pas toucher au texte. Le texte doit rester le texte pour qu'il y ait un en commun. Alors on peut réinterpréter le texte par la mise en scène. Très bien, il faut laisser de la liberté aux gens, mais il ne faut pas fausser le sens du texte, encore moins réécrire le texte. Le texte est ce qu'il est, il doit garder cette objectivité, ce dénominateur commun, on peut dire, qui fait qu'en fait, cela permet aux gens de discuter ensemble. Voilà. Le théâtre racinien, par exemple, auquel il serait insensé de vouloir changer ne serait-ce qu'une virgule, parce qu'il a une telle perfection formelle que on ne devrait jamais toucher au texte, peut être joué de multiples manières, interprété en des temps et en des lieux différents, peut-être actualisé à la ville, à la campagne, à New York, à Singapour, que sais-je, et à la limite, peu importe. Mais la puissance du texte doit rester le dénominateur commun, avec cette objectivité absolue. Ce sont les vers de Phèdre si connus devant l'être aimé. Phèdre semble défaillir. Tout le monde connaît cela. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva, en mon âme éperdue. C'est bien ce qui se produit toujours dans l'angoisse amoureuse. Ce rougissement et cette pâleur, cette âme qui devient éperdue, qui ne sait plus trop où elle en est, il y a ici une intemporalité de l'être qui se sent happé par l'être aimé. Et quelque chose de très beau. Alors on peut vouloir, dans telle ou telle mise en scène, représenter Phèdre de telle ou telle manière, y compris comme une cougar hystérique, mais tout ça n'a aucun intérêt en soi. Pourquoi pas ? Mais en fait, tout ça n'a aucun intérêt en soi, parce que Phèdre, tout simplement, nous dit quelque chose de très fraternel, à savoir ce caractère très universel du désemparement que produit l'amour. Voilà. On tombe amoureux. Bon, l'expression française est remarquable, c'est tout à fait ça. Hein. C'est la chute. On ne sait plus trop où on en est. Voilà. Alors, chute qui peut être très belle, d'ailleurs, mais qui nous désempare. Bon. Et Phèdre dit cela. Donc, le texte doit quand même conserver, évidemment, sa puissance de percussion. Ça peut être un attrait de la littérature, de recréer un peu d'en commun. Je crois à cela. Quoi qu'il en soit, dans toutes les configurations que nous sommes en train de dire, nous rencontrons un univers différent quand nous lisons, un univers qui nous renvoyant, sans nous imposer d'image, mais qui nous apprend par le style à sortir de nous-mêmes. Et il nous est bon, souvent, tout de même, de sortir de nous-mêmes. Nous sommes tentés d'être enclavés dans nous-mêmes, nous avons besoin de sortir de nous-mêmes, et cela, la littérature peut le faire, en nous faisant vivre des vies que nous n'aurions jamais vécues tout seuls, hein, des vies éloignées. Jean-Michel de La Conté, dans son petit essai sur Bossuet, qui est très beau, dit cela, il parle de cet orateur du XVIIe siècle, qui est Bossuet, qui vit dans un monde qui n'est plus du tout le nôtre, qui réfléchit d'une manière
qui
peut sembler étonnante à bon nombre de nos contemporains, et à nous-mêmes d'ailleurs aussi, ne nous mentons pas. Jean-Michel de La Conté, qui écrit cet essai, ne partage pas les vues de Bossuet, la vision du monde qui est la sienne. Et pourtant, ce qu'il voit très justement, c'est que Bossuet, vivant dans l'entourage du roi, s'occupant du dauphin, s'occupant d'un diocèse, il était évêque de Meaux, d'un diocèse qu'il fallait réformer, diriger, au milieu de multiples activités, trouvait dans l'écriture, dans le style particulier d'écriture que Bossuet a lui-même développé, un espace de liberté extraordinaire. Dans la vie contrainte qui était la sienne, et la vie du XVIIe siècle est une vie beaucoup plus contrainte que la vie que nous menons, nous avons l'impression d'être contraints de multiples manières. Bon, nos prédécesseurs auraient éclaté de rire en nous voyant nous plaindre des contraintes qui sont les nôtres. Et Bossuet était un homme incroyablement contraint, mais dans ses textes, il était incroyablement libre, et en un sens, la lecture nous rend cette liberté-là. Je lis quelques lignes, si vous le voulez bien, de l'essai de Jean-Michel de La Conté, qui s'appelle « Bossuet, langue morte ». Et là réside peut-être le secret de son style, contraint par ses fonctions, encastré dans son rôle, adhérant de toute sa surface à l'enveloppe impeccable qu'il présentait non seulement aux autres, mais à lui-même, il s'était réservé comme liberté propre le style. Un style qui ne dépendait que de lui, bien qu'il fût encadré par la rhétorique dans les discours publics, et qui n'appartenait qu'à lui dans ses feuillets intimes. C'est là qu'il se retrouvait. Il prenait rendez-vous avec l'esthétique pour écarter les idées funestes, se défendre de la mort en la rendant sublime par la puissance des mots. La langue, pareille au désir, court toujours après son objet, c'est même la condition de la poésie. Il devait le savoir, cet alchimiste, à force d'extraire de la vérité les moyens de l'exprimer et de transmuer le plomb du corps charnel en l'or de son verbe lumineux, tout comme dans ses prêches, il transformait en une langue limpide les ténèbres des entrailles où germaient les appétits honnis. Cette très belle phrase, il prenait rendez-vous avec l'esthétique pour écarter les idées funestes, se défendre de la mort en la rendant sublime par la puissance des mots. Cela pourrait être, pour nous aussi, une définition de la lecture. Lorsque nous lisons, et nous parlions de l'attrait de la lecture, lorsque nous lisons, nous prenons rendez-vous avec l'esthétique pour écarter les idées funestes. Nous avons besoin. Se défendre de la mort en la rendant sublime par la puissance des mots. Oui. La lecture, en fait, nous protège. Nous devrions être persuadés que nous vivrions mieux si nous acceptions d'être protégés par la lecture, d'être aidés dans notre vie quotidienne par la lecture.
En se décentrant de toutes nos obligations et en se concentrant sur quelque chose de purement esthétique.
Oui, bien sûr, quel luxe la littérature nous apporte en nous offrant l'occasion de nous retirer de la vie pour quelque temps, un temps plus ou moins long. On n'est pas obligé de lire 3 heures par jour, on peut aussi le faire naturellement, ou davantage, mais on peut lire même modestement, un peu le soir, voilà, avant de s'endormir, plutôt que de rester fébrilement devant les écrans, ce qui n'amène rien de bon pour la nuit. Les anciens savaient bien que juste avant de dormir, il fallait se retirer un peu calmement. Et la littérature peut permettre cela, voilà, par exemple. Mais quel luxe en réalité. Voilà, quel luxe. De quel bonheur nous nous privons lorsque nous ne lisons pas. En fait, c'est ça qu'il faudrait que nous réalisions. On se prive d'instants tout à fait privilégiés.
Merci beaucoup, monsieur, pour cette exposition.
Je vous en prie.
De la lecture, c'est vrai que d'emblée, ça peut paraître un petit peu compliqué de discerner tous ces attraits, mais de fait, on a quand même un grand sentiment de satisfaction après avoir fini un livre, après s'être retrouvé, après avoir ouvert nos perspectives sur le monde. Et c'est vrai que vous avez bien expliqué comment. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous ces enseignements, on pourrait dire.
Merci à vous.